Alors, on a le plaisir d'accueillir, pour terminer cette émission post-face, Lola Gruber, qui publie un savoureux roman aux éditions Bourgois, Elisabeth Lima. Bonsoir Lola.
Bonsoir.
Alors, vous écrivez, je disais, un roman savoureux, j'ai eu un grand plaisir à le lire. Il est un petit peu facétieux, il a des beaux personnages. Vous choisissez de raconter l'histoire de trois personnes du milieu littéraire qui décident d'écrire un best-seller. Alors, comment avez-vous choisi ces personnages? Et aviez-vous envie de raconter une aventure de création livresque?
Alors, comment ça m'est venu cette histoire? En fait, j'avais l'envie de raconter une mystification littéraire, comme il y en a beaucoup, enfin suffisamment pour qu'on y fasse attention, ou un de ces auteurs mystérieux, comme ça, on ne sait pas trop qui c'est, comme Elena Ferrante, on n'est pas vraiment sûr de qui c'était. Et puis très vite, ce trio s'est dessiné un éditeur, une romancière, un traducteur, un couple, un ami à eux, un peu plus jeune. Tout à coup, tout ça s'est mis en place et j'étais aussi curieuse qu'eux de savoir s'ils allaient arriver à leur fin.
Alors ça, c'est drôle que vous disiez ça parce que justement, leur décision d'écrire, ils sont à une réunion, ils se disent, bon ben voilà, la belle littérature, elle n'est pas toujours récompensée, donc on va écrire un best-seller. Donc ils sont un peu cyniques comme ça au début de ce livre. Et puis finalement, je me suis dit, Lola Gruber, elle s'est attachée à ces personnages parce qu'ils quittent ce cynisme et ils se prennent au jeu d'écrire un beau roman en fait.
Bah, en fait, leur projet, il est cynique, mais eux, ils ne le sont pas du tout. Et ça, faut y penser avant. Et comme je ne suis pas cynique, moi, non plus, et que comme romancière, c'est avant tout les personnages qui m'intéressent, et le moment où ils se mettent à vivre leur vie, je trouvais ça assez... Très vite, je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait des failles, et il faut que ça les dépasse, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt à mes yeux.
Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter, du coup, ces trois personnages que vous aimez peindre en tant qu'écrivaine?
Alors, ils sont à la fois trois et deux et un plutôt. Il y a d'abord ce qu'on appelle les Dolly, soit un couple qui est constitué de Dominique Do et Livia Liv. Lui est un éditeur un peu assez chic, un peu flamboyant, mais à la fois, il sait voir venir, il sait jouer le jeu, le fait très bien. Mais s'il avait un talon d'Achille, parce qu'il en a un dans toute cette force de persuasion et de séduction, c'est qu'il est très amoureux de sa femme et qui se trouve être une romancière qui a des succès contrastés, qui elle est quelqu'un, elle est à la fois très généreuse, très engagée et à la fois très pessimiste. C'est un peu l'éternel verre à moitié vide, ce qui fait qu'ils se complètent très bien. Enfin, c'est l'optimiste et la pessimiste, l'ironique et le... L'ironique, c'est elle et lui, mais plutôt dans les grandes choses, dans le sacré, dans la sacralisation des choses. Et ils ont ce copain qui va devenir un ami, qui est un jeune traducteur de poésie polonaise, spécialiste de la poésie polonaise, et tombé après amoureux d'un poète polonais, qui est un jeune homme qui s'appelle Camille et qui est une sorte d'emblème de pureté, qui est quelqu'un de timide, qui volontiers s'efface, quoi qu'en n'étant pas forcément effacé, et ils vont lui donner un rôle peut-être très légèrement filial dans leur couple, et un rôle d'auteur, c'est sûr qu'il ne s'attendait pas à jouer, et il va s'y révéler quelque chose de lui-même, et dans la relation, et dans l'écriture de ce livre qu'ils font à six mains.
Oui, on voit que vous êtes attaché à ces personnages. Alors l'histoire, il décide donc de raconter l'histoire d'Elisabeth Lima. Alors qui est Elisabeth Lima?
Alors, Elisabeth Lima, c'est leur auteur fantôme qu'ils ont inventé. Et ils disent, alors, si on fait un best-seller, il faut qu'on fasse un grand roman populaire, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs faire un mauvais livre, hein.
Oui.
Soit dit en passant. Et alors, ils cherchent un sujet extrêmement porteur et ils décident de raconter l'histoire d'une pionnière de l'aviation dans les années 20. Alors, finalement, c'est les années 20. Ils hésitent beaucoup sur la période. Et puis, ils se répartissent les rôles. Il y en a un dos... qui a le douteux privilège de s'occuper de toute la partie de documentation et toute la partie technique. Parce que si on veut décrire un avion, une compétition aérienne, ou un moteur, ou une avarie de moteur dans ces années-là, il va falloir travailler un petit peu. Liv, qui est une pure romancière, va s'occuper de l'intrigue, de la psychologie, des dialogues, des personnages. Et Camille va entrer rythmiquement avec tout ce qu'il connaît de la poésie pour faire swinguer le style un peu plus fort que ça n'aurait été le cas. Donc, et les voilà partis sur cette histoire de conquête de liberté et de conquête des airs, d'un roman qu'ils ont décidé d'appeler « Elle avait des ailes ».
Voilà, donc il faut construire le roman, il faut aussi un peu inventer cette Elisabeth Lima qui est l'autrice. Et vous avez évoqué les trois têtes en fait hein, de ce roman, qui sont en fait aussi pour nous lecteurs les petites fabriques du roman. C'est-à-dire on se dit alors pour être un bon auteur, il faut être à la fois très documenté, à la fois construire un récit et en même temps avoir la finesse de la langue et la poésie de la langue. Est-ce que vous aviez envie de raconter ça, ce que c'était que d'être un auteur, une autrice ?
Ah, moi, j'adorerais être trois.
C'est ça, le secret.
J'adorerais être trois. Je le suis, c'est-à-dire que je le suis quand je me relis, par exemple, je suis tour à tour des murs, j'ai un censeur. Il y a des choses dont je sais très bien qu'elles me viennent plus évidemment et plus facilement que d'autres. Maintenant aussi, au bout de quelques livres quand même, dont deux livres assez longs, mes deux précédents livres, il y en avait un qui se passait dans le milieu des musiciens classiques alors que je ne suis pas musicienne, et l'autre qui se passait dans la Tchécoslovaquie des années 50, alors que je suis ni tchèque ni slovaque et que j'étais pas née dans les années 50. Donc je vois bien les sueurs froides qu'on a dès qu'il faut qu'on fasse un fa dièse sur un violoncelle ou qu'on se renseigne sur les modalités de l'exercice de la coiffure dans la Slovaquie de 1954, parce qu'en 53 c'était pas pareil, etc. Donc c'est avec une joie sadique que j'ai laissé à mes personnages le soin de se documenter sur les avions, que je voyais très bien la migraine que ça pouvait être, et à la fois pour ce que je maîtrise, pour ce que je commence à maîtriser, peut-être pas le mot, mais connaître en tout cas très bien, j'étais contente de donner un peu quelques secrets de fabrication que j'ai pu découvrir chemin faisant, ou dire, voilà comment on procède. Non pas que j'y parvienne moi tout le temps, mais au moins j'ai cerné les enjeux.
Mais écoutez, vous y parvenez quand même dans ce roman, parce que finalement, il y a une construction qui est quand même un peu... Voilà, on a trois personnages, qui en crée un quatrième, qui travaille sur une héroïne qui est un personnage du livre qu'on est en train de lire, finalement, et on suit tout ça. Et il y a quelque chose de très fluide, de très presque, voilà, facétieux, savoureux, parce que aussi, vous installez tout ça dans des décors. D'ailleurs, les décors et les objets ont beaucoup d'importance, je trouve, dans le roman, et ça nous donne une atmosphère. Et puis, on s'attache, nous aussi, à ces trois personnages qui vont vivre l'aventure jusqu'au bout, en fait, et ça les transforme.
Mais il y a toujours un mouvement entre le livre qu'on écrit et la vie qu'on mène. On met de sa vie à soi dans son livre, délibérément ou pas, d'ailleurs, parfois ça vous échappe complètement, et puis ce qui se passe dans le livre rejaillit sur ce qui se passe dans votre vie, je pense, immanquablement. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux s'isoler complètement, parce que quand on ne vit pas seul, ça peut avoir des conséquences pour les autres aussi. Et là, dans leur cas, ça s'emballe encore plus, parce qu'ils sont trois. Donc ce mouvement tournant entre la vie et le livre va chez eux devenir une sorte de tornade qui les prend tous les trois dans leur bizarre entreprise clandestine, en plus, avec trois cerveaux ici.
Mais je trouve que c'est vraiment au cœur du livre, et puis nous en tant que lecteurs, c'est ça. C'est l'intimité aussi qui se tisse entre l'auteur, son livre, et puis voilà, cette porosité entre la vie intime des auteurs, des autrices, et l'écriture du livre. C'est toujours le cas, vous venez de le dire. Je veux dire, quand on écrit un roman qui est très très loin de notre vie, c'est ce que vous avez fait avant, on y met toujours quand même de son intime.
Ah ben forcément, oui. Enfin, je peux pas parler pour d'autres, hein, mais c'est juste une question de traduction, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a un personnage de traducteur. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de domaines littéraires qui m'intéressent avec des langues que je ne peux pas lire, donc les traducteurs sont mes héros. Mais par ailleurs, je pense qu'on ne fait jamais que traduire. Il y a un moment où Liv fait ça dans le livre, elle doit raconter une scène où... L'aviatrice a perdu ses lunettes de vol, donc elle doit se retrouver à piloter son avion complètement aveugle. Et ça, ça arrive souvent dans les... J'ai lu quand même 2-3 livres d'aviateurs. Tous les aviateurs, les aviatrices parlent toujours de leur avion comme d'une extension de leur corps. C'est une figure qui revient très très souvent chez beaucoup beaucoup d'aviateurs qui ont écrit des mémoires. Et donc, elle n'a jamais piloté un avion, mais elle retranscrit les distances entre les instruments de l'avion. Elle pense au corps de son compagnon, à la connaissance qu'elle a du corps de son compagnon, qu'elle pourrait avoir dans le noir, retrouver ses épaules, mesurer les yeux fermés, la distance entre, je sais pas moi, son genou et son orteil. Ça, elle le comprend très bien, elle est tout à fait capable de le décrire, donc elle utilise cette connaissance-là pour parler du rapport de la femme et de son avion. On va trouver une clé de traduction, je pense, quand on n'a pas connu une période. Moi, j'ai écrit des trucs qui se passaient dans la Tchécoslovaquie communiste pendant que j'étais en Hongrie, pendant la période du Covid. Alors, ça ne m'arrangeait pas que ce soit la période du Covid, mais il y avait une bonne idée de ce que peut être l'interdiction dans ce paysage de Budapest à une autre époque, soit pour d'autres raisons, soit, mais c'était quand même... C'était là, je pouvais le regarder et je pouvais le traduire.
Oui, c'était dans votre roman « Or ne venait la nuit », c'est ça, le roman précédent. Alors, au creux de votre roman, j'ai relevé une phrase qui n'est, à mon avis, pas arrivée là par hasard. « Dans les grands livres littéraires, les histoires sont faites pour mettre en place les images », écrivait Bachelard. Les images...
Et qu'est-ce qui reste dans un livre ? Qu'est-ce qui reste ? Moi, je suis déroutée, je trouvais la phrase de Bachelard magnifique, parce qu'elle donne aussi la dimension poétique d'un texte... Très vite, mais moi je suis sciée parce que très souvent dans des livres que je relis, la scène que j'ai le plus gardée en tête n'existe pas. Ou alors c'était un paragraphe. Il y a une scène comme ça dans Docteur Jivago que je voulais absolument retrouver. C'est un paragraphe cette scène en fait. Et je pense que c'est une force des grands textes littéraires, c'est que comme elles font appel à l'expérience, la spéculation et la sensualité imaginaire du lecteur, elle crée quelque chose dans l'esprit du lecteur qui n'est pas dans le livre, en fait. Et donc, on est dans la vie du lecteur que le livre a fait naître, et il n'y a rien de plus fort que ça. Oui, une image qu'on a gardée d'un livre, c'est souvent... C'en est souvent l'essentiel. Après, moi, il y a certains points de psychologie chez un auteur ou chez un autre qui m'ont été utiles. Je remercie beaucoup Marcel Proust pour des trucs qui me torturaient. Alors, j'étais déjà contente que ça le torture lui aussi. Mais en plus, lui, il avait des réponses.
Et vous les cherchez toujours.
Mais c'est parce que vous les avez trouvées
chez lui, d'accord. Bon, on trouve tout dans les livres, en fait. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire.
Ben, c'est à ça qu'ils servent. Moi, je ne lis pas des livres... Je lis des livres parce que ça m'aide à vivre hors des simples moments où je les lis, qui sont très précieux certes, mais d'une part, ça me permet de faire des expériences que j'aurais jamais faites. Grâce à Joseph Conrad, j'ai vécu un typhon. Je sais ce que c'est que de vivre un typhon maintenant, ce que je ne souhaitais pas fortement, mais c'est fait. Et puis aussi, dans certains dilemmes de la vie, d'autres ont trouvé des réponses. Et c'est à ça que ça me sert. Il y a des phrases qui m'accompagnent très fidèlement, mais très utilement aussi, que j'ai trouvées dans les livres, comme des phrases d'amis peuvent vous aider.
On invite en tout cas, nous, les auditeurs, à lire Elisabeth Lima de Lola Grober, un roman sur la littérature et beaucoup d'autres choses. Un roman d'aventure aussi, moi j'ai trouvé, mais qui agrandit la vie un peu comme ceux dont vous venez de nous parler. Je vous ai proposé pour terminer l'entretien peut-être de partager avec nous un coup de cœur littéraire. Vous m'avez dit quelle torture, il va falloir en choisir qu'un. Est-ce que vous y êtes arrivé?
Alors, évidemment, mais je me suis dit que ça pouvait m'aider pour choisir de rester un peu dans notre conversation et de parler d'un des livres qui avait été une source d'inspiration pour Elisabeth Lima, parce qu'il y a quand même quelques livres qui parlent de livres. Il y en a un qu'on a beaucoup lu qui est « Si par une nuit d'hiver un voyageur ». Mais il y en a un autre qui est peut-être pas assez connu et pas assez lu et qui est vraiment un bijou, et c'est « Les fruits d'or » de Nathalie Sarraute. Alors, « Les fruits d'or », c'est un petit livre à la fois très sage, je trouve, et très ironique, comme je les aime, c'est pas récent, ça date de 63, mais à mon sens, ça n'a pas pris une ride. Alors, faut peut-être prévenir que là, on n'est pas dans un grand roman populaire, on est dans l'univers très bizarre de sa route où on peut perdre un peu ses repères. Là, il n'y a pas de personnage et on ne sait pas qui parle. Mais ça parle même beaucoup et d'un roman qui vient de sortir et qui s'appelle Les Fruits d'or, d'un certain Brier. Alors, les gens commencent à en entendre parler, il y a une sorte de bruissement. On se dit, mais à toi, est-ce que tu l'as lu? Et on se demande ce qu'il faut en penser. Et il y a des gens qui l'aiment d'abord un peu timidement, puis un critique qui voit ça, qui le porte au nu, qui dit, mais depuis Stendhal, on n'a jamais rien écrit d'aussi bon. Alors là, ça commence à s'emballer autour de ces fruits d'or, et puis ça ronfle, tout le monde se met à adorer les fruits d'or. Et alors, il y a les passionnés, il y en a qui hésitent, qui ont peur de se tromper, ça alimente toutes les conversations, et puis, évidemment, avec cet immense succès, on commence à entendre des voix discordantes. Il y a des gens qui se mettent à dire mais non, les fruits d'or, enfin c'est complètement kitsch, il faut être un plouc pour aimer ça, on a déjà lu ça 1000 fois, puis d'autres qui disent non mais c'est exprès, etc. Donc personne ne sait plus quoi en penser et ça se dégonfle jusqu'à la chute dans l'oubli de ces fameux fruits d'or. Et je dévoile rien en racontant tout ça parce que la merveille de ce livre tient ailleurs, parce que je crois qu'on a rarement aussi bien décrit, ou même décrit parce que c'est un sujet étrange, ce qu'on pourrait appeler plus que la carrière, la vie sociale d'un livre. Et ce qui s'échange avec un livre et autour, la place que ça prend dans les conversations, dans la vie sociale, qui en l'occurrence c'est une vie assez bourgeoise de la France du début des années 60, mais je pense que ça tiendrait encore aujourd'hui. Et c'est autant une étude de mœurs qu'une réflexion espiègle, ironique sur la vie des livres, faite par une très très grande écrivaine, et qui a une oreille particulièrement fine, et une façon très espiègle aussi de raconter ce qu'est un livre dans son importance, mais dans sa dérision. Voilà, donc si on n'a pas lu Les Fruits d'or, on aurait tort de ne pas se faire ce petit plaisir.
Ouais, c'est une belle invitation pour clôturer l'émission Post-Face sur Radio Balistique. On vous remercie, Lola, d'avoir répondu à notre invitation et on vous attend pour un prochain roman.
Merci beaucoup.